La liturgie du sacrement de mariage. D'abord, rappeler simplement ce qu'est un sacrement, parce que ça peut vous avoir échappé ou vous n'avez pas révisé vos cours de théologie, etc., ou vos catéchismes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Un sacrement, c'est un signe visible d'une grâce invisible et instituée par Jésus-Christ. Donc un sacrement, c'est ça, c'est un signe, c'est de l'ordre du signe. Et c'est pour ça que les sacrements sont toujours les sacrements de la foi. Parce qu'il faut voir à travers le signe visible la grâce qui, elle, est invisible. D'une grâce invisible. Et c'est intéressant ça, de dire que tout sacrement, alors c'est une notion qu'on peut dire analogique. Ça veut dire quoi analogique? C'est bon, tout le monde a les feuilles là sur le sacrement. C'est une dimension analogique. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, la nature, on peut dire, est un sacrement, d'une certaine manière, parce qu'elle est le signe qu'on a un regard de foi. Voilà, on bénit le Seigneur pour la nature, etc. On peut dire l'autre est aussi un sacrement, le prochain et le futur conjoint est un sacrement, un signe visible de quelque chose d'invisible, et de voir l'autre comme une grâce de Dieu. Alors, ça dépend des jours, j'imagine. Mais, et donc. Et de même qu'on peut dire le Christ, la personne de Jésus, sur terre, est un sacrement, le sacrement. Et comme on dit aussi qu'il y a les sept sacrements, hein, dont le sacrement de mariage. Et donc le sacrement de mariage est vraiment parmi ces sept sacrements, c'est assez tardivement dans l'Église qu'a été établie la liste des sacrements. Qu'est-ce qu'on reconnaît comme sacrement? Par exemple, a failli être reconnu, entre guillemets, comme sacrement, le lavement des pieds. Le lavement des pieds, institué par Jésus-Christ, jusque-là tout va bien, le signe du serviteur. Donc c'est intéressant, et du coup, faites ceci en mémoire de moi, comme dans l'Eucharistie. Vous vous rappelez, dans l'Eucharistie, il prit le pain, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Et donc, bon, ça n'a pas été retenu comme un sacrement, c'était le sacrement du frère. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est l'histoire de l'Église, mais ce qui n'empêche pas de pratiquer, même en dehors du jeudi saint, le lavement des pieds. Alors, est-ce que c'est peut-être pour une question technique, de logistique, parce que si tu dois te balader avec ta bassine, puis ta serviette, puis le savon, etc., c'est vrai que c'est un peu technique, quoi. Donc, du coup, on a dit, bon, on va pas se compliquer la vie, j'en sais rien, c'est peut-être ça, j'ai aucune idée pourquoi ça n'a pas été reconnu, hein, et c'est la réforme grégorienne qui a établi la liste des sacrements, etc. Bon. Et c'est venu petit à petit. Hein. Évidemment, le premier à être connu, c'est le baptême. Et ce qui fait qu'on est chrétien, c'est qu'on croit au baptême. Hein, c'est à la différence, par exemple, il y a des anabaptistes, hein, mais qui ne sont qui c'est une tendance religieuse, mais qui ne sont pas chrétiens. Et du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important de dire, ça, tout sacrement s'appuie sur le baptême. Et c'est bien parce que l'un de vous deux, parfois les deux ne sont pas baptisés, ou parce que les parents ne l'ont pas baptisé, ou parce qu'ils appartiennent à une autre tradition religieuse, bon, mais il faut au moins qu'il y en ait un qui soit baptisé pour se marier à l'Église. Donc, parce que ça s'enracine dans le baptême. Donc c'est intéressant de voir signe visible d'une grâce invisible, institué par Jésus-Christ. On pense, vous vous rappelez ce passage qui est souvent choisi dans les messes de mariage, etc. Voilà, au commencement, on pose la question à Jésus, est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? C'est ce qui est dans la loi de Moïse, hein, on peut renvoyer, et encore maintenant, dans le judaïsme, on peut faire des actes de répudiation. Et même, c'est même prévu, il y a ce qu'on appelle le guet. Et donc du coup, qui fait que, qui est une clause qui fait qu'on peut se séparer. Et du coup, Jésus répond, ben, ce qui au commencement, il est fit homme et femme, hein, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc, il a institué le sacrement du mariage. Alors, sacrement de quoi? Et ça, c'est important, c'est que dans toutes les religions, je veux dire dans toutes les traditions. Pas forcément les religions, même les traditions culturelles, etc. Vous avez quelques grandes étapes. Vous avez la naissance, vous avez des rites attachés à plusieurs étapes. qui sont toujours les mêmes. C'est la naissance, le mariage et la mort. Voilà, c'est des rites dans les cultures, qui sont religieux ou pas, qui sont uniquement des rites issus d'une tradition ou d'une pensée philosophique, etc. Mais en tout cas, et puis on peut dire un rite aussi à l'adolescence. À l'adolescence, où là, il y a le passage, justement, avec la puberté, etc., de l'enfant au jeune homme, à la jeune fille, etc. Donc, du coup, c'est intéressant d'interroger ces rites et de dire que, à la différence des autres traditions, hein, qui sont respectables par ailleurs, mais dans ces traditions, il n'y a pas de sacrement de mariage. Il n'y a pas de... On demande la bénédiction de la divinité, quelle qu'elle soit, sur les nouveaux époux. Mais ce n'est pas ça le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage, ce n'est pas d'abord ça. C'est, oui, vous allez recevoir ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale le jour de vos noces. Mais le sacrement de mariage, c'est je veux être signe. C'est-à-dire que quand on me voit, je veux être signe de l'amour de Dieu pour son peuple. Je veux être signe de l'alliance de Dieu pour son peuple. Et cette alliance, elle est de toujours à toujours. C'est pour ça qu'il n'y a pas de divorce. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est indissoluble. Ce n'est pas soluble, comme le café, c'est indissoluble. Le lien matrimonial, parce qu'il est signe d'une réalité qui, elle, est indissoluble. Qui est la réalité de l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est assez logique, je veux dire. Alors, soit on s'inscrit là-dedans, soit on ne s'inscrit pas. Mais si on s'inscrit dans le sacrement de mariage, on s'inscrit dans un signe qui est de toujours à toujours, qui est l'amour de Dieu pour son peuple, l'amour du Christ pour son Église. Donc il y a quelque chose, quand on vous regarde, qu'on découvre une étincelle de l'amour de Dieu pour son peuple. Voilà. Alors si eux, ils s'aiment de cette manière, qu'est-ce que ce sera l'amour de Dieu pour moi et pour chacun d'entre nous? Vous voyez, donc je trouve que c'est intéressant de prendre conscience de ça, de dire sacrement, voilà, c'est être un signe. Et ces sacrements aussi, c'est les sacrements du salut. C'est-à-dire que tout sacrement est en vue de la vie éternelle. Même si vous savez que le sacrement du mariage est pour cette terre. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, hein, mais on n'est pas mari et femme dans l'éternité. Il n'y a pas non plus de belle-mère dans l'éternité, par exemple. Donc, bon, ça peut être aussi sympathique. Mais toujours est-il que, voilà, on est, il n'y a pas de... c'est pour cette terre. Il y a beaucoup de sacrements. Je veux dire, on ne retrouvera pas l'Eucharistie dans l'éternité. Voilà, c'est... Alors, c'est voilà. Mais ce qui est intéressant avec le sacrement de mariage, c'est que c'est un sacrement qui s'inscrit dans quelque chose qui vient de la création. À l'image de Dieu, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. Voilà, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc, il y a d'abord, ça s'enracine dans quelque chose de la création. Ce n'est pas simplement de la rédemption. Alors, on sait, un peu technique, etc., surtout à 9h30 du matin, un samedi. C'est rare que vous vous entendiez parler de création et de rédemption. Mais c'est pour ça que le mariage naturel, ce qu'appelle mariage sans être entre deux personnes qui ne sont pas baptisées, est reconnu par l'Église, a une valeur. Le mariage civil a une valeur pour l'Église. À tel point que des personnes qui ne sont pas baptisées, mais qui étaient mariées civilement, et ils ont eu une conversion... Ils se sont séparés du conjoint marié civil et ils se retrouvés une autre personne. Entre temps, ils ont eu une conversion, ils veulent se marier religieusement. Il va falloir faire une démarche pour déclarer nul ce mariage civil. C'est pas simplement le divorce, parce que l'engagement entre un homme et une femme, baptisé ou non, on regarde l'Église. En tout cas, ça a une valeur parce que c'est une valeur dès la création. On en a parlé. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir... et c'est un lieu de rédemption, c'est-à-dire un lieu de... Les sacrements sont un sacrement de salut. Donc posez-vous la question, de quoi notre couple a-t-il besoin d'être sauvé? De quoi notre couple a-t-il besoin d'être sauvé? Si c'est les sacrements du salut, de quoi j'ai besoin d'être sauvé? Vous voyez, ce qui est compliqué aujourd'hui, avec l'absence de Dieu dans notre société, la sécularisation, c'est qu'on ne prend même plus conscience du salut, qu'on a besoin d'un salut. Et que vous, comme couple, moi comme religieux, et voilà, toute personne a besoin de... Parce qu'il y a quelque chose en nous de fracturé. C'est ce que, dans la tradition judéo-chrétienne, on appelle le péché originel. Il y a quelque chose dans chacun de nous qui a été cassé. Et on voit que la communion, l'amour, n'est pas spontané. Et donc on a besoin de cette grâce de Dieu dans le sacrement pour nous sauver, bah nous sauver de nos égoïsmes, nous sauver de la tentation, nous sauver du péché, nous sauver de nos enfermements, etc. Oui, donc je pense que c'est important que de prendre conscience de ça, c'est le sacrement de la foi, et donc d'avoir un regard de foi sur l'autre, et c'était beau là ce que Stéphanie, frère Sébastien et Samuel nous ont invités à faire, que vous puissiez mettre la main sur l'épaule de l'autre et le bénir, justement pour reconnaître un don de Dieu. C'est pas juste un cas. Alors, tout le monde ne mettra pas ça, je ne sais pas du tout où vous en êtes au niveau spi, mais il y en a pas mal qui sont au taquet de Jésus là-dedans, parce que, non, parce que ça chantait pas mal, visiblement, parce que, donc, du coup, je me suis dit, oh là, il y en a qui connaissent les chants, donc c'est ça. Mais il y en a d'autres, peut-être, c'est leur première retraite, découvrent complètement, etc., bon, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés, bon, voilà. Donc, ben, justement, de prendre conscience que vous êtes là pour demander, le mariage, c'est l'union de deux pauvres, qui supplie la grâce. C'est capital, ça. C'est pas parce qu'on est meilleur que d'autres qu'on se marie à l'église. C'est pas parce qu'on a plus conscience que d'autres de nos fragilités et de nos misères. Et parce qu'on a plus confiance que d'autres d'un salut et d'un soutien dans la présence de Jésus, de son Esprit Saint. Donc vous voyez, c'est très, très fort ce sacrement. Encore une fois, il n'y a que dans les églises catholiques et orthodoxes où le mariage est reconnu comme sacrement. Les églises protestantes ne le reconnaissent pas comme sacrement. Ils reconnaissent évidemment le baptême, peut-être l'église luthérienne, l'Eucharistie, il y a encore, je ne sais pas comment elle se situe, est-ce que c'est pendant la consécration, etc., je ne sais pas. Mais bon, voilà, donc c'est un sacrement, donc c'est pas rien. Et on est les seuls à dire que le mariage est un sacrement. On est les seuls à dire que le mariage est un sacrement. Il n'y a que les chrétiens, il n'y a que les catholiques et les orthodoxes, mais ailleurs, ça n'a pas cette valeur de signe d'une réalité transcendante. C'est plutôt la réalité transcendante qui vient bénir le couple, réalité transcendante, divinité quelle qu'elle soit, mais de dire que vous comme couple, vous êtes le signe d'une quelque chose de transcendant, il n'y a que les chrétiens qui le pensent et qui le croient. Alors, comment est constitué ce sacrement? Comment est-ce qu'il est structuré?
Alors, il est structuré de la manière suivante. Parole, corps et fécondité. Parole, l'échange des consentements, le jour de vos noces. Corps, l'union intime des époux. Fécondité, le rayonnement dans l'accueil de la vie. Et on sait bien, on verra tout à l'heure, que la fécondité n'est pas simplement dans l'accueil des enfants. J'ai une question. Quel autre sacrement fonctionne comme ça?
Hein? Oui, vas-y, je t'écoute. Donc l'Eucharistie, c'est la bonne réponse.
La parole, le prêtre va prononcer les
paroles. Non, avant. Parole. La liturgie de la parole. Lecture de Saint Paul, apôtre romain, machin, le psaume, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Il y a toute une lecture de la parole. Ensuite, corps. La consécration, exactement. Frédéric, ce que tu dis, voilà. La consécration du corps, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et fécondité. L'envoi. Et puis, juste avant l'envoi, la communion. La fécondité spirituelle. Vous êtes super fort. Alors, je vais continuer les questions. de quel mystère de notre foi vient cette, je veux dire, cette structure-là, parole, corps, fécondité. Quand j'entends mystère de notre foi, j'entends oui, fermez la porte, parce que c'est Saint-Esprit qui souffle, semble-t-il. Voilà, j'entends mystère de notre foi, j'entends l'Église, la résurrection, les sacrements, la Vierge Marie, voilà, c'est les mystères de notre foi. Alors, de quel mystère de notre foi, d'où on a pêché ça, je veux dire, en contemplant le mystère de Dieu, et quel mystère de Dieu on a vu ça? Là, l'incarnation. Vas-y. Parole, corps, fécondité, et
parole pour. Parce que Christ a été annoncé par les prophètes.
Oui, il a été annoncé par les prophètes, mais plus c'est ce qu'on dit dans l'Angélus.
Par la promesse de Dieu.
Tu vois, l'annonciation. Parole, l'annonciation. Et voilà l'ange. Et le verbe, la parole de Dieu qui a été annoncée à Marie s'est fait chair. Et il est habité parmi nous. Ça, c'est le mystère de l'incarnation. C'est ce que, si vous étiez à l'office ce matin, les frères, à chaque office, concluent, ça c'est notre dimension mariale, par l'Angélus. On fait mémoire du mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi derrière ça? Bon, ça paraît un petit peu technique, etc., mais ça veut dire qu'il y a un ordre dans l'amour. Il y a un ordre dans l'amour, c'est-à-dire qu'il y a il y a une manière de manifester l'amour qui est d'abord par la parole, qui s'exprime par le corps, hein, et qui, ensuite, cette fécondité, il a habité parmi nous, c'est le salut, cette fécondité que sont les enfants, etc. Cette fécondité spirituelle à laquelle vous êtes appelés. Donc je trouve ça intéressant de voir les choses comme ça, parole, corps, fécondité. Hein, de voir que cet ordre dans l'amour... Et justement, parce qu'on est de la religion de l'incarnation, nous croyons, nous sommes les seuls, et c'est un peu logique, il y a quelque part, il y a une logique là-dedans. Nous sommes les seuls à penser que le visible renvoie à l'invisible. C'est-à-dire que nous sommes, de voir que un homme et une femme qui s'engagent pour la vie renvoient à une réalité invisible par vos humanités, il y a un rapport au visible. À l'invisible. De même, par l'humanité du Christ, il y a un rapport à l'invisible. Vous voyez, c'est parce que nous sommes la religion de nous sommes la religion du corps. Nous ne sommes pas la religion du livre. On dit les religions du livre, etc. Le christianisme. Non, nous ne sommes absolument pas la religion du livre. Nous, à tel point que les évangiles sont des témoignages. Inspiré, etc., mais c'est pas Dieu qui a pris le stylo bille et qui a écrit, etc. Donc, je pense que c'est vraiment important de reprendre conscience que, à travers le sacrement de mariage, c'est vraiment le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire, Dieu veut se révéler par vos humanités, blessées ou complexes, ou etc. Bon, ça c'est vos psychologies, peu importe. Mais d'où l'importance aussi d'avoir recours au sacrement de réconciliation, parce que justement, veut se révéler par vos humanités, mais du coup, on demande à ce salut de Dieu de venir aussi, dans chaque sacrement. Et le jour de votre mariage, vraiment c'est important, c'est le jour de votre mariage, demandez des grâces. Moi, j'y crois fond. C'est-à-dire, demandez des grâces. Des grâces particulières, des grâces spirituelles, des grâces pour vos familles. Le ciel s'ouvre. Et donc, dans la foi, vous voulez, à ce moment extraordinaire de votre vie, vous voulez demander des grâces pour vous, pour vos proches, hein, demander en abondance. Pour vous deux, évidemment. Voilà, c'est important ça. Donc cette question du sacrement, de comment est structuré un sacrement, et donc on va voir la question de la parole plutôt ce matin, qui dans le sacrement du mariage s'exprime par l'échange des consentements. Donc l'échange des consentements dans l'Église latine, c'est intéressant de voir que Dans le mariage de l'Église latine, c'est-à-dire on dit l'Église latine parce qu'il y a les églises orientales aussi, hein, mais dans l'Église latine, ce sont les époux qui sont les ministres du sacrement. Alors, de façon abusive, on dit, bon, tel père nous a mariés. Par exemple, dans la tradition orientale, c'est beaucoup plus le prêtre qui marie les personnes, les époux. Dans la tradition latine, c'est-à-dire occidentale, ce sont les époux eux-mêmes qui sont, ministres, qui s'administrent le sacrement, et le prêtre ou le diacre, et le cas échéant un laïc dans des terres de mission où il n'y a personne, est là comme un recueillant votre parole, comme témoin de votre parole. Mais ce n'est pas lui qui vous marie, c'est vous qui vous administrez le sacrement. Et donc du coup, je trouve ça intéressant de dire qu'il y a une grosse responsabilité hein, par rapport à ça. Vous êtes ministre d'un sacrement, c'est le sacrement de mariage. Alors que le ministre habituel des autres sacrements, c'est le prêtre ou l'évêque pour la confirmation et l'ordination sacerdotale. Mais pour votre mariage, c'est vous qui êtes les ministres, ils vous administrez. Et ce sacrement peut être à l'intérieur d'une messe ou sans une messe. C'est comme le baptême, il peut être à l'intérieur d'une messe ou à l'extérieur d'une messe. Le sacrement des malades peut être dans la messe. Alors, donc, d'après vous, quel sens ça a, disons, de joindre le mariage à l'intérieur d'une messe? Parce que la plupart des mariages, c'est ce qu'on appelle des bénédictions, mais qui sont des sacrements, mais c'est sans messe. Parce que les personnes ne sont pas pratiquantes, parce qu'un des deux n'est pas baptisé, parce que voilà, pour X raisons, la grande majorité, il n'y a pas de messe. 80% hein, des mariages, il n'y a pas de messe. Mais donc du coup, qu'est-ce qui fait que beaucoup, et peut-être, je pense la plupart d'entre vous, en tout cas un certain nombre, vont opter pour une messe de mariage? Qu'est-ce qu'il y a comme symbole, comme sens? Parce que si vous êtes ici, c'est bien pour trouver un sens aux choses. Donc du coup, vous l'avez dit tout à l'heure, ça, le sacrement, l'Eucharistie, la structure, la même structure que le sacrement du mariage, et en fait la communion, qui est au cœur même de votre amour, eh bien elle s'enracine dans cette communion au corps et au sang du Christ. Je veux dire. Et donc du coup, ce sera, moi j'aime bien quand je préside assez rarement, mais des messes de mariage, de dire, ben, c'est votre première communion, comme marié, comme jeunes époux. Vous voyez, donc ça, ça se sent, on rentre dans l'alliance, la messe, c'est le signe de l'alliance. Voilà, donc du coup, pour faire un peu, rappeler ce qu'est un sacrement, rappeler la structure, le lien avec la messe, etc. Et là, on va lire donc l'échange des consentements. Donc le prêtre ou le diacre dit, donc il y a ce qu'on appelle le dialogue avec les fiancés, parce qu'ils sont fiancés à ce moment-là. Le dialogue avec les fiancés. Vous allez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contrainte? En fait, vous allez voir dans les questions que le témoin au nom de l'Église, prêtre ou diacre, et là, et en fait, ça reprend les piliers du mariage. C'est-à-dire que si, alors je ne sais pas où vous en êtes de votre foi, et vous n'êtes peut-être pas croyant, vous n'êtes pas baptisé, etc., mais ce qu'on vous demande, en vous mariant à l'Église, ce qu'on vous demande, vous êtes baptisé, mais bon, vous n'y croyez pas, etc., bref, ce qu'on vous demande, c'est de croire de croire ce que demande l'Église, de faire ce que veut l'Église. Et qu'est-ce qu'elle veut? Premièrement, que ce mariage soit librement consenti, c'est-à-dire que personne ne fait pression, mais dans librement consenti, c'est-à-dire qu'il y a la maturité suffisante pour pouvoir dire oui l'un à l'autre. Vous savez que dans les déclarations de nullité de mariage, s'il n'y a pas de divorce, que je vous l'ai expliqué, dans le mariage à l'Église, il y a parfois des déclarations de nullité, et parmi ces déclarations de nullité, en grande partie, c'est par manque de maturité. La manque de maturité humaine et spirituelle qui dit, à la suite d'un procès canonique ecclésiastique, qui dit qu'il y a, au fond, il n'y a pas eu vraiment mariage, parce qu'il n'y a pas eu une vraie liberté. Mais la liberté, elle est une condition. Ensuite, donc est-ce librement, vous êtes promis fidélité, est-ce... Et juste un point là-dessus, sur la liberté, je trouve que c'est le pilier le plus menacé. Alors, non pas que, comme dans les temps anciens, soient les parents qui choisissaient le conjoint, etc., mais pour, je trouve que c'est le pilier le plus menacé parce que, entre autres pour des questions matérielles, et que s'il n'y a pas eu de discernement en amont, le couple est balancé dans un toboggan matériel de logistique, de traiteur, de salle, de machin, de DJ, de photographe, de robe de mariée, etc. Bon. Et ça, parfois, un an à l'avance. C'est-à-dire, longtemps à l'avance, parce qu'il faut réserver. Alors, avec le Covid, tout a été... Quelque part, c'est assez sympa, parce que, du coup, ça complète, sauf ceux qui devaient se marier aujourd'hui. Où est-ce qu'ils sont, ceux qui devaient se marier aujourd'hui, là ? Bon, c'est peut-être moi, ça, bon, on prie pour vous, là. Mais... Voilà, mais et du coup, voilà, baissez pas les bras. Mais bon, mais en même temps, voilà, on se dit, voilà, qu'est-ce qui est vraiment important. Et il y en a, par exemple, ils ont fait, il y a peu de cas comme ça, mais j'ai reçu un mail comme ça d'un couple qui était venu à une retraite. Il dit, mais finalement, on s'est marié dans l'appartement de mes parents pendant le Covid. Ou juste après, voilà, on était 10, il n'y avait même pas mes témoins, il n'y avait même pas tous mes frères et sœurs. Le prêtre nous a mariés là. Je trouve que ça a remis le focus sur l'essentiel du mariage, qui est la célébration, qui est le sacrement. Et non pas tous les à côté, mais tous les à côté qui engagent. Parce que bon, non, c'est ceux qui ont versé des arts pour machin, la salle, le traiteur, etc. Bon, tout ça, ça engage. Et donc, je trouve la question de la liberté parfois menacée, parce que bien en amont, sans avoir pris le temps du discernement, les fiancés ont dû s'investir au plan matériel, au plan logistique, sans forcément toute la connaissance suffisante l'un de l'autre. Donc la question de la liberté. Ensuite, la question de la fidélité, on en parlera demain matin. Hein, vous allez vous promettre fidélité, est-ce pour toute votre vie? Je vous fais remarquer que la fidélité est à l'intérieur du mariage civil. C'est c'est parmi les codes du mariage civil, il y a, en tout cas en France, il y a la fidélité. Hein, et ça peut être une cause de divorce que de mettre par exemple, de vivre avec une personne extérieure, du coup on reconnaît que là, on peut même annuler, il y a des annulations de mariage civil, pas seulement des divorces. Acceptez-vous de fonder la responsabilité d'époux et de parents? Voilà, dans le foyer, vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Donc, c'est la fécondité. Donc, ce qu'on demande, alors ça se pose, c'est une question optionnelle, parce que c'est vrai que si la personne, c'est un couple de 75 ans, est-ce que vous avez accepté la responsabilité d'être parent? A priori, bon, la nature fait qu'on est rarement parent à 75 ans. C'est peut-être même souhaitable. Et donc, mais en revanche, ça c'est un point important, si vous excluez le fait d'avoir des enfants, si vous ne pouvez pas, pour X raison, vous ne pouvez pas, mais si vous excluez le fait d'avoir des enfants, vous ne pouvez pas vous marier à l'église. Je dis ça parce qu'une fois, un couple m'a posé la question... Ah ben non, nous on a décidé de ne pas avoir d'enfants, sauvons la planète. Mais c'est une vraie question, je veux dire, parce qu'il n'y a rien de plus polluant qu'un être humain. Et en fait, tout ce qu'on a, etc., le réchauffement, etc., ben, s'il n'y avait pas les hommes, ouais, on va un peu une position un peu excessive, extrémiste, mais s'il n'y avait pas les personnes humaines, ben, voilà, ben, finalement, ça serait beaucoup mieux. C'est la question du malthusianisme. Vous rappelez le malthusianisme, hein? Malthus qui disait, au fond, voilà, il faut un certain nombre, il faut limiter le nombre de personnes, de populations, etc. Pour ça, si on a un gâteau de 1000, qui fait 1000, et qu'on est 100, ben voilà, on a une plus grosse part que si on est 10 000 pour le même gâteau. Donc, la question de Malthus, c'est une vraie question. Simplement, les chrétiens, ils répondent d'une manière qui est la leur. Dire que si on est 10 000, le gâteau, il n'est plus de 1000. Il a grandi. Donc, mais cette question de la population, etc. Mais en tout cas, si vous excluez de façon déterminée le fait d'avoir des enfants, vous ne pouvez pas vous marier à l'église. Donc ça fait partie. Donc. Et alors aussi, qui est optionnel, c'est la quatrième question. Le deuxième est optionnel en raison de l'âge. Mais bon, je vois personne de 75 ans dans la salle. Mais bon, donc, mais la quatrième est optionnelle en raison peut-être de la conviction. Êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Et ça a été rajouté, il y a une modification du rituel du sacrement de mariage en 2006. Et ça a été rajouté à ce moment-là, et je trouve ça assez pertinent. On voit la messe de mariage ou le mariage comme un envoi en mission. C'est-à-dire que vous êtes envoyé en mission au monde, vous êtes envoyé ben voilà, là où vous serez, vous, comme laïc, comme époux, là où moi, comme prêtre et religieux, je ne serai pas. Vous êtes envoyé comme témoin de l'invisible, par le sacrement, au monde. Donc acceptez-vous votre mission de chrétien dans le monde, voilà, et dans l'Église. Je dis, voilà, c'est optionnel parce qu'en fonction des convictions, en fonction du chemin de chacun, certains s'y reconnaissent ou s'y reconnaissent pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien qu'il y ait la possibilité que soit donnée dans la liturgie du sacrement, que soit donnée cette possibilité-là de réaffirmer, oui, on voit notre mariage comme missionnaire, comme un envoi. De même est la possibilité dans les messes de mariage, cette fois-ci, de dire le credo. Et quand on choisit, c'est optionnel, mais qu'on choisit de dire le credo, c'est-à-dire qu'on veut enraciner, c'est pas anodin, c'est qu'on veut enraciner son couple dans la foi de l'Église. Oui, donc il y a un certain nombre d'options qui sont significatives. Et donc, j'ai pris, il y a quatre formules, quatre possibilités d'échange des consentements, j'en ai pris deux là. Il y en a une où, en fait, c'est le prêtre qui fait tout, il faut juste répondre oui. En général, on répond oui, parce que sinon on n'a plus de petits fours après, si vous voulez. Donc ça c'est quand même problématique. Mais donc en général, on répond oui. Jean, est-ce que tu acceptes de prendre Justine pour épouse? Donc oui. Donc bon, ça. Mais là, j'ai pris ces deux-là qui sont les plus communément prises. Alors la Formule 1, la plus rapide, évidemment. C'est là où il fallait rire. Oh, bref. Fleur, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Et toi, Jean, veux-tu être mon mari? Veux-tu? On ne vous demandera pas le jour J si vous vous aimez. On vous demandera le jour J si vous le voulez. C'est-à-dire qu'aimer et vouloir, c'est synonyme. Mais vouloir, c'est aimer, et aimer, c'est vouloir. On ne vous demandera pas si vous le sentez. Alors, c'est vrai que si vous ne pouvez pas vous sentir, ça va être plus complexe à gérer, la vie commune. Mais on vous demandera, est-ce que vous voulez? Est-ce que votre cœur s'oriente vers ça? Est-ce que votre volonté s'oriente vers ça? C'est important, ça. C'est... Je dis ça parce qu'on voit beaucoup, dans un peu le mainstream dans la société, on voit l'amour comme quelque chose d'émotionnel. C'est pas d'abord ça. Oui, bien sûr que ça vous bouscule à l'intérieur. Mais aimer, c'est d'abord l'orientation d'une volonté, c'est une décision, et une décision que renouvelle quotidiennement. Oui, je le veux. Donc c'est quand même pas rien. Et oui, je le veux, Fleur, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. Et Jean, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. Donc chacun, qu'est-ce qui est intéressant là? Je te reçois. Et ça, c'est très fort. Je reçois, vraiment, quand on dit oui à l'autre, on dit oui à l'autre dans son humanité telle qu'elle est. Je te reçois. Et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Ça, c'est le piège classique. Voilà, il va changer, elle va changer. Mais bon, je dis oui maintenant, mais sans grande conviction. Mais bon, ça va s'améliorer. Non. Déjà, à l'âge où vous êtes, ou grosso modo autour de la trentaine, vos psychologies sont déjà établies, vos caractères sont déjà affirmés. Vous allez bouger, mais j'allais dire à la marge. Mais pas. J'allais dire, parfois, plus on vieillit, plus on est attaché à ses habitudes. Les traits de caractère s'épaississent. Et donc, je te reçois vraiment, je reçois ce que tu es, et je te reçois comme tu es, et je reçois aussi ton passé. Je reçois peut-être tes blessures, je reçois tes dons, tes talents, tes charismes. Je reçois toute ton humanité. Et je me donne à toi, je donne à toi toute mon humanité. Et c'est là où c'est intéressant. C'est le fait de dire je me donne à toi, c'est-à-dire vraiment, voilà, c'est dans un don, on verra par rapport à la fidélité, mais des manques de dons de soi-même sont déjà des infidélités. Les manques de dons de soi-même sont déjà des infidélités. Donc je me donne à toi. Hein, avec, y a rien que je veuille garder pour moi. On verra le jardin secret demain, mais en tout cas volontairement de mon humanité, de mes capacités, etc. De mon caractère. Voilà, j'en fais don à l'autre. Donc c'est en fait le mariage, c'est rentrer dans une logique de don. C'est ça, le mariage. En fait, toute la vie chrétienne, c'est rentrer dans une logique de don. Et non pas dans une logique du dû. Ça ne m'est pas dû. L'autre ne m'est pas dû. L'autre est un don. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment reprendre conscience de ça. C'est le régime de la grâce. On rentre, on voit l'autre comme une grâce. Une grâce faite à ma vie. Ouais, un don. Vous auriez très bien pu, parmi les milliards d'hommes et de femmes, jamais vous rencontrer, jamais vous croiser. La formule 2, donc voilà, veux-tu être ma femme ? Oui, veux-tu être mon oui, voilà, oui, je le veux, etc. Ça, c'est... Et ensuite, ensemble, les époux disent, pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves et nous soutenir l'un l'autre, tout au long de notre vie. Et je trouve ça beau, cette deuxième formule, qui est assez intéressante, qui rappelle au fond que dans le mariage, dans la vie commune, il y a quelque chose à porter et à supporter. Dans le bonheur comme dans les épreuves. L'épreuve, elle manifeste à l'extérieur ce que tu portes à l'intérieur. C'est ça l'épreuve. Elle manifeste à l'extérieur ce que tu portes à l'intérieur. Il y a quelque chose à porter et supporter. Il y a quelque chose. Je dis ça parce qu'il y a aussi cette pensée magique du mariage. Mais on est tellement l'un pour l'autre. On est fait l'un pour l'autre. Non. On se fait l'un à l'autre. Oui, comme si c'était magique, comme si ça ne dépendait pas de vous. Ça se fait tout seul. Non. C'est beaucoup plus rassurant de dire on se fait l'un à l'autre qu'on est fait l'un pour l'autre. Parce qu'au moins vous avez prise. Mais dans une dimension comme ça, magique, un peu voilà, émotionnelle, coup de foudre, voilà. Pour se marier, il faut absolument un coup de foudre. Non. Vous pouvez avoir un coup de foudre comme ça, des amis, etc. La première fois qu'ils se sont rencontrés, elle surtout dit « ce sera mon mari » et 20 ans après, 7 enfants après, ils sont toujours mariés femmes. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas fait le travail d'un discernement et d'un approfondissement. Vous comprenez, je pense que c'est important. Je dis ça parce que ça dit « oui, mais on ne sait pas si vraiment on s'aime ». À quoi est-ce qu'on voit qu'on s'aime ? C'est que la présence de l'autre te donne de la joie et son absence t'attriste. Si c'est l'inverse, c'est compliqué. Si merde, on va se revoir. Alors là, ouf, elle est partie là. Ça, c'est quand... oh, là, c'est vraiment sympa. Là, faut stop. Machine arrière toute. On arrête. Voilà. C'est ça. On s'aime parce qu'on a envie de voir l'autre heureux me rend heureux. Mais ce n'est pas parce qu'on est, il y a une sorte de coup de foudre, de truc magique, de... d'une sorte d'hyper-émotionnalité. Non. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une volonté. Donc c'est intéressant de dire, il y aura quelque chose, une forme de pénibilité. Parce que dans toute relation humaine, il y a une pénibilité. Il y a quelque chose qui fait que, déjà, différence hommes et femmes, mais différence d'éducation. Même si vous êtes né dans le même village, la même rue du même village, vos familles, c'est deux mondes. C'est deux mondes différents. Donc, même si oui, on est raccord, on est même milieu, du même religion, mais d'accord, mais il n'en demeure pas moins que vos familles, ce sont deux mondes. Vous avez été façonnés dans vos familles de façon différente. Et donc, il y a des choses qui parfois vous agacent, et c'est important de le dire. Il y a des choses que, quand je prépare comme son mariage, je dis, est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent dans la famille de l'autre? Et encore une fois, le dire ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre. Ou est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent dans le tempérament de l'autre? Forcément. Là aussi, arrêtons de dire, oui, il faut que ce soit un ciel bleu sans nuages. Ça ne veut rien dire. C'est au contraire de dire, ben voilà, quand tu fais ça, tu arrives toujours en retard. C'est des trucs de base. C'est rarement sur... J'ai jamais vu quelqu'un divorcer parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'interprétation des Écritures, si vous voulez. Ça, j'ai jamais vu. Ce que j'ai vu, c'est en revanche, oui, c'est où la tentation, avec les infidélités, on en parlera demain, mais surtout, voilà, c'est les agacements, c'est les incompréhensions, c'est parfois la colère qui vient... L'autre fait écho à ce que vous êtes. L'autre fait miroir à ce que vous êtes. Et donc, toutes vos colères, par exemple, je m'appelle un couple, etc. Un garçon qui a beaucoup de colère en lui, etc. Bon, par son histoire familiale. Du coup, le fait d'être en couple, ça révèle sa colère, ça a réveillé sa colère. Et du coup, qu'il le submerge. Et voilà, il travaille dessus, etc. Il s'est retrouvé marié, il était jeune marié, etc. Il s'est énervé, etc. Et il a plaqué sa femme sur le lit, comme ça, les mains comme ça, en lui hurlant dessus. Mais quelque part, ou un autre, il prend son portable, il explose, il donne des coups dans le placoplâtre de l'appartement parisien. Alors ici, les murs sont un peu plus épais, je vous le déconseille. Donc, mais bon, dans la salle, ça va, mais... voilà, mais oui, ça vient d'où cette colère? Oui, ça, ces questions-là, c'est pas des petites questions. Hein. Mais en fait, c'est l'autre qui est miroir et qui fait rejaillir mes fragilités, mes blessures, mes manques d'amour. Donc il y a des épreuves au long de la vie matrimoniale, il y a des épreuves, etc. Mais je pense que c'est important de dire que ces épreuves, elles manifestent aussi qui vous êtes. Et nous soutenir, et je trouve ça bien aussi que ça termine, dans le bonheur comme dans les épreuves, et nous soutenir l'un l'autre tout au long de notre vie. Voilà, vous êtes là pour un soutien mutuel. Vous êtes là pour vous tirer vers le haut, pour vous encourager dans l'amour, pour vous... Et dès que la volonté de l'un ou l'autre n'est plus au rendez-vous, c'est là où ça flanche. Parce que la volonté de l'un ou l'autre n'est plus au rendez-vous. Ça, je pense, c'est de prendre conscience qu'on est un soutien. Et la grâce, comme la grâce est en communauté, on est des soutiens. Même si la vie en communauté, avec des personnes qu'on n'a pas choisies, et qu'on n'aurait peut-être surtout pas choisies, est complexe. À des moments, oui. Parce que nos sensibilités, nos affectivités, nos éducations, nos nationalités sont différentes, etc., avec tout ce que ça implique. Donc je pense que c'est intéressant de... vous aimez dans le bonheur. Alors on se dit, c'est facile de s'aimer dans le bonheur, mais je trouve qu'il y a une bénédiction à la fin du mariage qui dit que le bonheur ne vous éloigne pas de Dieu. Parce que c'est sûr qu'on le suppose, ce sera parmi les jours les plus heureux de votre vie, etc. Mais prenez conscience que le bonheur peut parfois éloigner de Dieu. Et souvent, c'est la nature humaine, c'est quand ça ne va pas, qu'on se tourne vers le Seigneur, qu'on met un cierge à brûler, qu'on fait un Notre Père, un Je vous salue Marie. Voilà. Mais c'est intéressant que ce bonheur que vous avez d'être ensemble, que ce soit un bonheur que vous voyez comme un don et donc comme une grâce. Et donc, il vous rapproche du Seigneur et non pas vous en éloigne. Et du coup, vous posez la question, je le pose régulièrement, est-ce que la rencontre avec Dieu vous a, avec l'autre, vous a approché de Dieu ou éloigné de Dieu? Qu'est-ce que ça a eu comme influence? Ou ça n'a pas eu d'influence? Voilà, donc, Voilà, qu'est-ce que ça... Est-ce qu'avant vous étiez peut-être plus croyant, plus pratiquant, plus que vous n'êtes maintenant? Ou au contraire, l'autre, vous sentez, ben, vous a ramené dans ce qui était, je veux dire, votre culture, parce que vous êtes baptisé, vous avez peut-être été jusqu'à la première communion, et bon, voilà, mais bon, les parents pas pratiquants, vous n'étiez pas pratiquant, etc. Voilà, de garder ben, l'autre, oui, ben, j'ai repris un pied dans l'église à l'occasion de ça, à l'occasion de la préparation au mariage. Il y a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup comme ça. Et quand entre vous, il y a des différences au niveau de l'intensité de la foi, que celui qui est peut-être moins impliqué ou celui qui est d'une autre tradition religieuse prenne conscience qu'il est gardien de la foi de l'autre. Hein, celui que vous n'êtes pas les deux dans une même dynamique de foi, etc., parce que parce qu'on n'est jamais exactement la même dynamique de foi, mais il y en a parfois qui sont, il y a vraiment un gap entre les deux. Bon, voilà, en tant que tel, moi, ça ne me pose pas de difficulté, du moment que celui qui est moins investi, ou celui qui ne croit pas, est gardien de la foi de l'autre. Ça veut dire gardien de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, dans ma famille, imaginons, dans ma famille, on ne va pas à la messe de Noël, alors que dans la famille de ma fiancée, on y va. Eh bien, être gardien de la foi de l'autre, c'est-à-dire que je vais m'assurer, quand le Noël sera dans ma famille à moi, que nous aurons une messe et que nous pourrons y aller ensemble. Du coup, je chercherai une messe. Concrètement, c'est ça. Être gardien de la foi de l'autre. C'est faciliter de la foi de l'autre. Alors, on ne vous demande pas d'avoir la même foi, et il n'est pas demandé non plus, si on n'est pas baptisé, de se convertir pour se marier à l'église. Ce n'est pas une demande, parce qu'on estime qu'à juste titre, c'est une... démarche personnelle, hein, c'est pas le cas de toutes les religions, il y a certaines religions qui exigent des conversions. Je trouve ça complètement idiot, mais bon, bref. Mais parce que c'est inefficace, parce qu'on le fait pas pour les bonnes raisons. Mais c'est pas le cas de la foi catholique. Et les chrétiens en général, ils ne demandent pas de conversion. Donc, voilà. Mais en revanche, on demande d'être gardien, de ne pas être une difficulté pour celui ou celle qui est plus impliqué dans sa foi. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Et puis n'hésitez pas à poser des questions pendant le topo, etc., s'il y a des choses qui vous viennent. Oui?
Par rapport à ce que vous avez dit au tout début, quand vous avez dit que on ne serait pas marié femme pour l'éternité, c'était pour cette terre.
Oui. Alors, on ne sera pas marié et femme pour l'éternité, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qui va rester? C'est ça la question. Donc, vous avez quand même le désir que ça reste, en disant ça, que bon, c'est plutôt positif. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un petit quelque chose? Je pense que... Bon, je n'en sais rien, quand même. Tel que je vois les choses, mais moi, je n'y suis jamais allé, mais bon. Mais tel que je vois les choses, comme on est dans l'amour de Dieu et dans la charité, bah, forcément, les personnes avec qui on a eu un contact, un lien... on retrouvera ce lien dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus le sacrement de mariage, il y aura plus ça, mais on retrouvera le lien. On retrouvera le lien avec vos parents. Vous retrouverez le lien peut-être avec vos grands-parents. Les personnes avec qui on aura en Dieu mais, une relation spéciale, mais qui ne veut pas dire que on sera tous dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que, mais avec, je pense, dans la communion des saints, des personnes avec lesquelles en Dieu, on sera une proximité, une affinité. Moi, je vois ça comme ça. Donc, il n'y aura pas de sacrement. Et même saint Paul dit, il n'y aura ni homme ni femme. Donc, c'est un peu le truc du genre, là. Comment on appelle ça, la machin du genre, là, la théorie du genre, là. Hein, il n'y a ni homme ni femme. Donc, il y a des frères qui disaient, mais oui, en fait, saint Paul, il était pour le mariage pour tous, etc. Je ne pense pas, a priori, parce que par ailleurs, il disait autre chose sur l'homosexualité. Bref. Mais c'est intéressant de dire qu'on sera en communion l'un avec l'autre, vous serez en communion, mais pas comme signe d'une grâce, pas comme homme et femme, pas comme époux, hein, mais vous serez en communion parce que des liens de charité et d'amour vous auront unis sur cette terre, mais c'est le cas avec toute personne avec qui vous aurez eu ces liens ici-bas. C'est-à-dire, ce que nous vivons ici retentit dans l'éternité. C'est aussi, il n'y a que les chrétiens qui y croient. C'est-à-dire, ce que nous vivons ici a une dimension éternelle. Donc c'est quand même pas rien. D'autres questions? Alors, je vais vous passer, avant qu'on termine par un chant, maintenant vous avez un temps de relecture. Si vous pouvez, hop. Ce temps de relecture de votre vie de couple, il se fait seul. Ce temps de relecture, il se fait seul, en silence. Et donc, je vous ai mis des pistes pour la relecture. C'est des choses toutes simples. Hein, qu'est-ce que, depuis le début de votre histoire, vous avez aimé vivre? Qu'est-ce que vous ne voudriez pas revivre? Qu'est-ce qui vous paraît à clarifier? Et qu'est-ce qui vous dynamiserait? Voilà, c'est un peu ces questions-là qui... voilà, et donc, vous, seul, en silence, pendant ce temps-là, et dimanche après-midi, vous mettrez en commun, pas à peine de se précipiter pour voir l'autre, qu'est-ce que tu as dit, etc. Dimanche après-midi, vous mettrez en commun un peu le partage sur cette relecture.